RFI.
RFI Radio France Internationale, 8h30 à Paris, 7h30 à Dakar.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal de Vincent Dublange.
Et à la une, ce reportage à Bukavu, dans l'est de la RDC, où les milices enrôlent, mais où certains, vous allez entendre, certains habitants font des provisions au vu des incertitudes de la situation. La tension dans la sous-région est forte. Le Rwanda répond fermement au Burundi, qui l'accusait il y a deux jours d'avoir des intentions belliqueuses à son encontre. Entre 12 et 90 euros, c'est le prix d'un être humain entre la Tunisie et la Libye. Un rapport affirme que l'État tunisien vend des migrants aux milices libyennes. On va vous expliquer. La traque des ravisseurs au Niger dans la région d'Agadem, où samedi deux employés chinois de la compagnie pétrolière CNPC ont été enlevés, leur escorte tuée. Le journal des sports dans 10 minutes et la jolie soirée du Ghanéen Thomas Partey, dont le club d'Arsenal a écrasé Manchester City 5-1 hier soir. On vous parle aussi de ce jeune joueur de foot du TP Mazembe. 17 ans, il a déjà de courtes mais belles lignes statistiques. La RDC et l'inquiétude des habitants de Bukavu, alors que des combats ont été enregistrés dans le sud Kivu ces derniers jours entre le groupe armé du M23, ses soutiens rwandais, et l'armée congolaise et ses alliés. Ces derniers temps, la ville de Bukavu enregistre aussi l'arrivée de déplacés en provenance des villages de la zone de Calais, au nord de la ville, des déplacés également en provenance de Goma, qui passent par le Rwanda et traversent la frontière ensuite jusqu'à Bukavu. On sent une certaine inquiétude chez les habitants de la capitale du Sud Kivu. Reportage William Passimike.
Debout devant la porte d'un dépôt, Rosette veut se procurer de quelques sacs de farine pour sa famille.
Je suis en train de faire mon stock. J'ai déjà acheté de la braise, des haricots, de l'huile et maintenant de la farine. Nous avons un peu peur, mais nous avons confiance. Notre armée va battre le M23 et nous l'encourageons.
À cause de la guerre, Bukavu est privé des denrées alimentaires en provenance du Nord Kivu. Conséquence, les prix commencent à monter. Dans son dépôt, Jean-Jacques Biragui fait part de ses craintes.
Le prix de la farine va augmenter car elle provient de Goma, pareil pour les haricots. D'autres proviennent du Rwanda. Le lait de Goma devient de plus en plus rare, sauf pour ceux qui en avaient en grande quantité. La pomme de terre se vendait à 3000 francs, actuellement c'est 3500. Alors s'il n'y a pas un couloir ouvert pour le commerce, les prix vont augmenter.
Après avoir fini ses courses au marché, Lebon, 51 ans, jette son téléphone. Il accuse les réseaux sociaux de diffuser des fausses informations et s'adresse au gouvernement congolais.
Ce sont les réseaux sociaux qui créent la panique. Parfois on nous dit ceci, on nous dit cela. Moi je suis favorable à ce que l'on ferme les réseaux. Le président Tshisekedi doit les couper car nous avons besoin de silence. Il faut laisser l'armée se battre.
Dans son message à la société civile, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourroussi, a exhorté les habitants à rester unis et à lutter contre la peur. Il appelle les Congolais à ne pas reproduire les erreurs du passé. William Basimike, Bukavu, RFI.
Un mot de cette déclaration hier soir du ministre congolais de la communication et des médias sur les antennes de nos consoeurs et confrères de TV5 Monde, Patrick Muyaya, qui dit, je cite, une grande partie de la ville de Goma est tombée entre les mains de l'armée rwandaise. Fin de citation. Côté diplomatie, y aura-t-il un sommet ces prochains jours, ces prochains temps, conjoint entre la SADC et l'EAC, les deux organisations sous-régionales? Elles semblent d'accord sur le principe de ce sommet, mais elles affichent des positions très différentes sur le conflit en cours. La communauté d'Afrique australe est plutôt derrière la RDC, tandis que celle de l'Afrique de l'Est, l'EAC, demande à Kinshasa de discuter directement avec le M23. Les tensions sont vives dans la région. Il y a un vrai risque de conflit plus large, juge ce matin sur RFI le spécialiste Jason Stearns. C'était l'avertissement lancé également vendredi soir par le président burundais Evariste Ndayishimiye, qui accusait le Rwanda de velléités offensives. Kigali répond, Lucie Mouillot.
Les forces de défense rwandaises défendent les frontières, elles n'attaquent pas les civils, affirme dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Dénonçant les actions de la mission de la SADC en RDC, Kigali se dit cependant favorable à un sommet conjoint entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement.
Le Rwanda soutiendra toujours une position qui va dans le sens de la recherche de la paix par les pourparlers, par les négociations, à part peut-être le gouvernement congolais. Tout le monde est convaincu que ce problème ne sera pas résolu par la voie militaire.
Dans un discours à Bujumbura, le président burundais Evariste Ndayishimiye alerte de son côté sur le risque de régionalisation du conflit, accusant le Rwanda, je cite, de préparer quelque chose contre son pays, des déclarations rejetées par Kigali.
Il oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés de FARDC et de Wazalendo et de FDLR.
Le Burundi est déjà en guerre. C'est toujours des accusations qui viennent sans preuve, sans fondement. Le Rwanda devra se défendre si c'est nécessaire, mais le Rwanda n'a pas attaqué qui que ce soit.
Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont eux aussi appelé le M23 et les forces rwandaises à mettre fin à leur offensive à l'est de la RDC. Si Kigali n'a jamais admis apporter un soutien aux rebelles, le gouvernement parle de mesures défensives à la frontière. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
À la suite de ce journal au Niger avec un enlèvement. C'était samedi matin, deux ressortissants chinois kidnappés dans l'est du Niger, région où les rapts se multiplient. Région par laquelle passe l'oléoduc qui transporte le pétrole brut vers le port béninois de Semekpoji. Deux gardes nationaux affectés à la sécurité des employés chinois de l'entreprise CNPC ont été tués dans l'attaque. Attaque non revendiquée. Une opération de recherche est en cours. Paul Lorgerie.
Les deux ressortissants chinois tentaient de rallier la zone de Faringa, non loin du grand site pétrolier d'Agadem, à l'est du pays, lorsque leur véhicule a été attaqué par un groupe d'hommes armés non identifiés. Après avoir tué les deux gardes nationaux qui assuraient la sécurité des techniciens chinois, les assaillants sont repartis avec les deux otages. Sitôt l'alerte donnée, un détachement militaire s'est lancé sur les traces des ravisseurs. La compagnie chinoise CNPC, qui exploite le pétrole nigérien, ne s'est pour le moment pas exprimée sur le sujet. En revanche, la hiérarchie de la garde nationale a confirmé dans un message radio diffusé hier matin la mort de ces deux éléments issus de l'escadron de Mayaï. Selon plusieurs sources, cette attaque serait un acte de vengeance. Le 30 janvier dernier, quatre orpailleurs auraient été assassinés par l'armée nigérienne, provoquant un regain de tension dans la région. Ce n'est pour autant pas la première fois que des ressortissants chinois sont la cible d'enlèvement dans la zone. En juillet 2024, la CNPC avait par ailleurs annoncé la suspension de ses activités sur le site d'Agadem en raison des attaques terroristes perpétrées contre le site pétrolier.
La Tunisie vend des migrants en Libye voisine. C'est ce qui ressort de témoignages contenus dans un rapport choc signé d'un collectif de chercheurs anonymes, un travail soutenu par des députés européens. Il évoque une véritable traite d'État. Le but de ce rapport, c'est de rouvrir le débat sur les responsabilités de l'Union européenne et des États membres dans les violences sur les migrants, notamment d'Afrique subsaharienne. Bruxelles accorde toujours le statut de pays sûr à la Tunisie et l'UE fait du pays maghrébin un pilier de sa gestion des frontières extérieures. Pardon, Lilia Blaise.
C'est la première fois qu'un rapport met en cause directement l'État tunisien dans de possibles cas de vente et trafic de migrants. Il contient 30 témoignages de migrants expulsés de la Tunisie vers la Libye entre juin 2023 et novembre 2024 qui révèlent la vente d'êtres humains aux frontières tuniso-libyennes, selon les mots du rapport. Ainsi que l'interconnexion entre l'infrastructure derrière les expulsions et l'industrie de l'enlèvement dans les prisons libyennes. Le processus commence par l'arrestation de migrants, leur transport jusqu'à la frontière tuniso-libyenne, le rôle des camps de détention gérés par les autorités tunisiennes, puis le déplacement forcé et la vente des migrants aux forces armées et aux milices libyennes. Le prix de vente des migrants se situerait entre 40 et 300 dinars, soit entre 12 et 90 euros, selon le prix que peut ramener leur rançon une fois qu'ils sont détenus par les milices libyennes. La rançon réclamée à leur famille s'élève en général à 500 euros. Les témoignages font également état de tortures et de sévices particulièrement choquants, subis tout au long de leur détention, côté tunisien comme libyen. Pour le moment, les autorités tunisiennes n'ont pas encore réagi à la publication de ce rapport. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
À la rétention de l'influenceur Doualemne, près de Paris, prolongé pour un mois. Début janvier, cet Algérien de 59 ans avait été interpellé pour une vidéo diffusée sur TikTok dans laquelle il appelait à donner, je cite, une sévère correction à un supposé opposant algérien. Il s'était alors vu retirer son titre de séjour, expulsé par la France deux jours plus tard, mais l'Algérie l'avait immédiatement renvoyé en France. Mercredi dernier, la justice française a suspendu l'expulsion au motif que la procédure d'urgence utilisée par le ministère français de l'Intérieur n'était pas justifiée. L'homme est visé par une nouvelle procédure, mais il a introduit un recours contre son placement en rétention que le juge des libertés a finalement rejeté. Donc hier, au grand dam de son avocate Marie David Belloire.
Il faut comprendre dans quel contexte on se situe et de quel acharnement a fait l'objet Doualemne. Ce dernier avait d'abord été placé le 7 janvier dernier sur le fondement d'un arrêté d'expulsion qui a été suspendu par le juge du tribunal administratif de Paris et la préfecture de l'Hérault, qui n'a pas entendu respecter cette suspension, a repris le même jour, le 29 janvier 2025, une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans une précipitation telle que la première obligation de quitter le territoire a été notifiée sans en signature et qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire a été prise le lendemain et que c'est sur le fondement de ces obligations de quitter le territoire qu'il a été replacé en centre de rétention pour un nouveau délai de 30 jours, que aujourd'hui le juge des libertés de la détention a estimé que la procédure était régulière et que nous sommes absolument choqués de cette décision. C'est la raison pour laquelle nous allons faire appel. Ce que l'on dit depuis le début, c'est qu'il se retrouve en étau dans une crise diplomatique franco-algérienne, que en plus il est brandi comme un étendard de la politique ultra-répressive du ministre de l'Intérieur Retailleau et que évidemment que cette affaire le dépasse complètement.
Propos recueillis par Laura Martin. Lui a près de 163 millions d'abonnés sur TikTok. Kabilam est le créateur de contenu le plus suivi sur la plateforme. Un succès qui a commencé par de simples vidéos humoristiques pendant la pandémie de Covid. Depuis, il est rémunéré par la marque Hugo Boss. Il a fait une apparition dans le film Bad Boys avec Will Smith. Il va même tenir le rôle principal d'un autre film au cinéma. Preuve de l'impact que peut avoir Kabilam. L'UNICEF le nomme. Le TikToker sénégalo-italien comme ambassadeur, analyse ce matin de Kemal Afanyon, spécialiste des réseaux sociaux.
C'est un parcours fascinant aujourd'hui, à un moment où l'application TikTok s'est fait connaître à travers des adolescents qui dansaient sur leurs chansons préférées. Lui, il a usé de l'humour pour attirer donc des mobinautes vers cette application. Il a le statut de premier créateur en Europe, c'est le deuxième influenceur qui a réussi à franchir le cap des 100 millions de followers. L'UNICEF a compris donc que c'est quelqu'un qui de par sa stature, est proche des gens et qu'il a un talent pour faire passer des messages à plusieurs centaines de millions de personnes réparties à travers le monde. Donc on peut penser que l'UNICEF cherchera à se servir de sa position mondiale pour communiquer autour de son recours à l'intelligence artificielle, par exemple, l'enregistrement du carnet de santé des enfants dans des pays en Afrique. Je pense que c'est son côté aussi vrai, authentique, et son côté à prendre aussi position par rapport à des faits qui caractérisent nos sociétés, qui lui ont permis d'atteindre aujourd'hui ce sommet.
Un propos recueilli par Wally Diallo. C'est ainsi que se termine ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Andréane Mélard.
Et je vous souhaite une belle journée, Vincent Deblonge.
Merci beaucoup.